I got glue and chore pour I to the pipe of it.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit te peux pas m'engarer, pas m'engarer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite son chapeau, une belle plume de haut. Pas m'engarer, pas m'engarer.
Mais si l'amour prend la racine dans mon jardin, j'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai mes aux quatre coins. J'en ferai pas au nom de qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Bonjour et bienvenue dans l'écho du parquet pour la 32e émission. L'écho du parquet, vous pouvez nous entendre sur notre audioblog Arte en ligne ou alors vous pouvez nous entendre en Drôme Ardèche sur trois stations de radio. Radio Méga 99.2, Fréquence 7 92 et Radio Saint-Ferréol 94.2 FM. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui c'est une émission spéciale Nickel Harpa, la Nickel Harpa qui est comme tout le monde le sait un instrument suédois et qui, si vous savez déjà que vous détestez cet instrument, eh ben vous pouvez changer de station parce qu'il n'y aura que de la Nickel Harpa ou presque avec parfois des arrangements et puis d'autres instruments, mais on va quand même essentiellement entendre de la Nickel Harpa et des gens qui nous parlent de Nickel Harpa, des rencontres qu'on a fait au son continu. Avec des passionnés, des néophytes, un luthier aussi. Et puis, on va écouter beaucoup de musique. Alors, on vous conseille de vous mettre chez vous, sous un mètre de neige, coincé. C'est les bonnes conditions pour écouter cette émission, qui va évidemment évoquer beaucoup la Suède. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ?
Alors, on commence tout de suite justement par un groupe suédois qui s'appelle Svart Café. Dans la collection, son album est publié dans la collection Chants et Musique du Monde. Et le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau qui s'appelle Urven. C'est une polska du Värmland.
Thank you. marché. Je pourrais vous montrer si vous voulez.
Ça vous ennuie pas?
Non, bien sûr, je peux vous montrer.
C'est toujours lui qui a la modalité. J'ai dit que j'allais me mettre autour de
ça. Tu découvres cet instrument?
Ah, complètement. Ça ressemble, on ne sait pas trop, à un violon, mais très allongé, donc c'est pas ça. Bon, la contrebasse, c'est un peu trop étroit, même pour un violoncelle, donc je me demandais.
On voit plein de cordes, mais il n'y a que les quatre cordes extérieures que l'on frotte, que je frotte.
Et les autres, ça met les clés?
Alors, les autres cordes, non, rien ne les touche. Toutes les autres cordes, c'est des cordes de résonance.
D'accord.
De résonance, et il y en a 12 pour avoir toutes les notes. Okay. Comme ça, il y en a toujours une, deux, trois qui vont résonner.
Ah, elles vont résonner.
Résonner.
D'accord, ok.
Et puis voilà, et puis on joue, sinon on a des touches. Ah oui, au lieu que ce soit le doigt qui repose sur la corde, comme un violon, comme une guitare, c'est un petit bâtonnet qui vient toucher.
D'accord. Voilà. Ça a quand même le son du violon. Hein.
Ah oui.
Mais c'est comme la vielle à archer, en fait.
Oui, on l'appelle des fois vielle à archer.
C'est vielle à archer.
Ah ouais, mais ça a un son aigu comme c'est pas du. Voilà. Ah, c'est quand même mélangé. C'est violon un peu alto.
Un peu résonnant aussi.
Ouais, voilà, un peu résonnant. Vous voulez pas jouer vraiment?
J'ai joué vraiment pour moi.
Hein. Ben c'est très bien. Et rappelez-moi parce que j'ai déjà oublié. Hein.
Nickel Arpa.
Nickel. Il faut juste que je retienne nickel. Merci beaucoup.
Avec un Y.
Et c'est un instrument, en tout cas en Suède, dans son pays d'origine, c'est un instrument qui est...
Éléonore Billy, joueuse de nickel arpa dans le groupe Octantrion.
Qui est encore un peu rare pour les personnes qui ne s'intéressent pas du tout aux musiques populaires. Et puis c'est un instrument qui est très localisé. En fait, il vient de la région autour de Stockholm, Uppsala. Et il a peu voyagé dans les régions autour. Donc voilà, et puis dans les pays alentours, en France, il est arrivé dans les années 70 avec Laurent Vercambre de Malicorne. Et puis il s'est vraiment développé depuis une quinzaine d'années. Voilà.
Il marche bien. Il marche très bien.
C'est toi qui en joues?
Oui.
D'où ça vient ton intérêt pour cet instrument? Comment t'as commencé ça?
Plus une rencontre avec Jean-Claude Condier, qui est un luthier qui en fabrique et qui m'a montré ça et qui... C'est un super son, puis voilà quoi. Donc je fais aussi d'autres choses, mais c'est vrai que ça c'est très particulier et ça permet. C'est un son quand même vraiment spécifique.
Est-ce que tu joues quoi comme répertoire avec?
Pas trop, en fait, je m'y suis mis. Enfin, ça fait à peu près 2 ans que je suis dessus. Après, je joue plutôt d'autres choses, plutôt irlandais, mandoline, violon, trucs comme ça.
Et avec la nickel arpa?
J'en fais un peu, ouais. Oui, si ça marche bien.
Avec la nickel arpa?
Avec la nickel arpa, un peu les chansons, enfin les trucs un peu lents irlandais, ouais, ça marche bien. Hein.
Okay.
Après, suédois, j'ai pas encore trop attaqué le répertoire comme les filles là. Non, je. C'est vraiment encore à part, hein. C'est vraiment un répertoire à part. Ouais, donc c'est pareil, il faut passer un peu de temps avant de maîtriser ça, quoi.
La rencontre, elle s'est faite ici,
Non, pas ici, pardon, je dis des bêtises. Elle s'est faite déjà dans un petit festival à l'Argentière en Ardèche. La première fois que j'ai vu l'instrument. Mais bon, ça s'est arrêté là. Et la deuxième fois, j'ai un fils qui fait de la musique et qui était avec Jeff Barbe à côté du stand de Jean-Claude Condy. Et là, je suis restée comme ça.
À me dire... Vous ne connaissez pas du tout ?
Pas du tout. Ah non, non, pas du tout.
L'avoir vu une fois.
Ouais. Bonjour Marie-Claude. Et donc, j'ai beaucoup écouté. Et puis un jour, Jean-Claude m'a dit, mais il faut essayer. Mais je n'avais jamais fait de musique de ma vie. J'étais à la retraite. Donc, je me suis dit, comment je fais pour... Et il m'a dit, mais je peux louer un instrument. Donc, j'ai loué un instrument, j'ai fait quelques stages. Je ne suis pas très bonne, mais j'aime bien.
Ça fait combien de temps ?
Ça fait 8 ans.
Et tu as jamais fait de musique et tu as commencé par la
musique ? Ouais, carrément.
Ouais, le plus simple.
Ouais, le plus simple. Mais il a beaucoup d'arguments, Jean-Claude. Il dit, c'est facile quand on fait un sol et puis qu'on est sur la bonne touche, on fait un sol, on fait pas un... Il dit, tu verras, c'est facile, tu parles, tiens.
Tu n'as pas trouvé ça facile.
Non, c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est pas tant ça, parce qu'une fois qu'on sait que, voilà, c'est ça.
Là, le clavier.
Le clavier, c'est les coups d'archet, et que ça fasse un beau son, un son clair. C'est difficile.
Ouais, comme au violon, en fait.
Bah oui, je pense que oui.
Et alors, quel répertoire, toi, tu aimes jouer avec la Nickel Arpa ?
En stage, on apprend beaucoup des musiques suédoises, donc je connais pas mal. Et puis, de temps en temps, j'ai appris toute seule des morceaux qui ne sont pas suédois, mais des vases, des choses comme ça.
Ok. Quel conseil tu aimerais donner à quelqu'un qui aime cet instrument, qui voudrait peut-être s'y mettre, comme toi, quoi.
Il faut essayer. Il faut essayer et puis se lancer, quoi, se jeter à l'eau, parce que sinon, moi, je regrette de jamais avoir fait de musique plus tôt, quoi.
Jamais trop tard. Hein.
Bah ouais, mais enfin bon, il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à faire quand même. Et il y a le plaisir de jouer avec d'autres. Ça, c'est un truc qu'il faut, auquel on pense pas. Moi, j'avais jamais pensé ça, et quand je me suis retrouvée avec jouer avec d'autres, je me suis dit, en fait, ça, c'est génial. Voilà.
Okay. Et alors, qu'est-ce qui t'attire ? Est-ce que tu saurais dire ce qui t'attire dans cet instrument et pourquoi tu as été attirée par ça ?
Je pense que c'est le son. Ça m'a fait... Ça vibre. Et même tout à l'heure, je ne jouais pas, mais mon instrument, il vibrait tout seul. Je sentais les... J'étais à côté de quelqu'un qui jouait, et je sentais l'instrument qui joue tout seul. C'est quand même fabuleux, ça. Et puis... Alors, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est les stages. Parce qu'on rencontre des gens... J'ai commencé avec un petit groupe, on était 6-7, on a tous commencé en même temps. Ouais. Parce que quand on est à la retraite, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Poser sur devant sa télé, sur son canapé, je ne sais
pas. Autant faire de la Nickel
Arpa. Autant faire de la Nickel Arpa. En fait, c'est une vielle, au lieu d'être une vielle à roue, c'est une vielle à archer. Donc, et au lieu de jouer les touches par le haut, on les joue par le bas, par en dessous.
Vous êtes tous et toutes musiciens, musiciennes, vous avez Nickel Arpa et beaucoup d'accordéons diatoniques. Est-ce que l'histoire du festival Saint-Chartier où le son continue, elle a compté dans le choix de vos instruments ou pas ? Est-ce que vous aviez testé des instruments chez les luthiers ?
Alors là, tout à fait. Moi, c'est mon cas. Je l'ai découvert ici pendant 2, 3, 4 ans, 4 fois.
Donc toi, tu joues du Nickel Arpa ?
Nickel Arpa. Et je l'entendais ici, puis j'étais surpris par cet instrument. Et un jour, le luthier, il m'a dit, tiens, je te le prête pour quelques mois. Et après, c'est venu comme ça.
Pourquoi tu as choisi cet instrument ?
Pour le son. Pour le son, d'abord. Je l'entendais et je trouvais ce son, voilà, qui me plaisait bien. Je faisais un peu de violon avant. J'avais commencé le violon 4-5 ans avant. J'avais vite plafonné et j'arrivais pas à ce que j'aurais voulu, un joli son. Et là, alors là, il faut le dire, on a très vite un son gratifiant. du fait que l'archet est moins long, du fait que les notes, elles sont toutes faites, donc on n'a pas le problème de justesse. Et enfin, du fait qu'il y a les cordes de résonance qui, tout de suite, donnent un petit peu de son, quoi.
Et toi qui es dans le milieu autour de cet instrument, est-ce que tu as l'impression que c'est un instrument qui se développe en France dans les dernières années ou pas? Ça reste très concentré?
Si, je pense, parce qu'on se connaît plus ou moins tous par les stages. On apprend par les stages. On apprend dans des stages. Et puis voilà. Mais il me semble qu'il y en a de plus en plus. On me disait avant, il y avait une centaine de musiciens. On est certainement maintenant plutôt proche de 200, au moins, certainement.
Alors, d'après ce que je vois, vous avez l'air d'être intéressé par le nickel harpa. Est-ce que vous en jouez déjà ?
Alors non, j'ai juste essayé lors de Bœuf. Moi, je suis violoniste. Il y a des gens avec des nickel harpa qui viennent jouer. Donc, à une session, on avait échangé l'instrument. J'avais trouvé ça extrêmement joli. Et c'est pour ça que je m'y intéresse et que j'aimerais en acquérir une, histoire de la travailler et d'en jouer.
D'accord. Et toi ?
C'est ma première fois que j'en joue.
D'accord.
Et c'est quasiment pour les mêmes raisons. Hein. Je trouve que c'est un instrument qui est ultra beau et qui a un son incroyable. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup savoir y en jouer.
Et t'es violoniste aussi au départ ?
Du tout. Je joue d'aucun instrument, mais j'aimerais bien que ce soit lui, mon premier, vraiment.
Mon premier instrument, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ? Quand vous dites que c'est un instrument qui est très joli, qui donne envie d'en jouer, qu'est-ce qui vous plaît dedans ?
Le son. Le son est incroyable. Ah ouais, c'est un instrument qui est équipé de cordes sympathiques. Il faut résonner extrêmement beaucoup d'harmoniques. Et c'est extrêmement... c'est un son qui est très doux. Et alors, il ne porte pas, mais il est incroyablement beau, quoi.
Puis en plus d'être beau, je trouve que ça, c'est plus simple que le violon, par exemple, de savoir en jouer. C'est plus intuitif, en fait, comme instrument. Et c'est aussi ça qui m'attire pour apprendre à en jouer. Enfin, ça a l'air beaucoup plus facile, quoi.
Qu'est-ce qui fait que ça a l'air plus facile ?
Le fait que ça soit des touches et pas des cordes où il faut appuyer, savoir exactement où placer son doigt. Je trouve ça beaucoup, beaucoup plus facile.
D'accord. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez une passion particulière pour le répertoire suédois au départ qui vous amène vers cet instrument ou c'est vraiment sa sonorité ?
Alors, la sonorité, mais oui, la découverte du répertoire traditionnel des pays nordiques est aussi une chose qui est très motivante parce que c'est un répertoire ultra riche et c'est pas du tout pareil. Pour nous, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre et c'est vrai que c'est extrêmement riche et joli, quoi.
je m'appelle Jean-Claude Condy. Je fais de la lutherie et je m'intéresse tout particulièrement à la nickel harpa depuis 1985. J'ai fait énormément d'expos et de festivals, un peu dans l'idée de vulgariser l'instrument. Voilà. Donc je fabrique donc des nickel harpa, l'instrument traditionnel suédois. Nickel, ça veut dire la clé, la touche. Harpa, ben, c'est l'instrument de musique. Et il a de ceci de particulier qu'il y a quatre cornes mélodiques sur l'instrument moderne. On a quatre cornes mélodiques accordées do, sol, do, la ou do, sol, ré, la. En France, c'est souvent accordé do, sol, ré, la. Et donc les cordes mélodiques sont jouées avec des clés, des petites tangentes qui viennent toucher la corde. Et là, dessous ces cordes mélodiques, il y a 12 cordes de résonance accordées par demi-ton. Et chaque note jouée sur les cordes mélodiques sera, comment dire, reprise, prolongée par les cordes sympathiques. Les cordes de résonance qui fonctionnent par sympathie.
Est-ce que ça veut dire que même en jouant une seule corde sur les cordes mélodiques, on a une sensation d'avoir des accords derrière qui soutiennent la musique? Est-ce que c'est ça l'effet que ça produit?
Ça fait plutôt, pas des accords je dirais, mais ça fait un aspect un peu comme si on jouait dans une église. Il y a une espèce de réverb, une réverb naturelle quoi, qui est dans l'instrument. Parce que lorsque vous faites une note, ça va faire sonner, on va dire, la corde sympathique qui lui correspond. Mais il se trouve que la note peut-elle être aussi la quinte d'une autre. Et dans ce cas-là, par exemple, si je fais l'accord de sol à l'octave, on va dire très aigu, je vais avoir ma corde sol grave qui va sonner, souvent soit à l'unisson, soit à l'octave. Et pour sonner à l'octave, la corde sympathique va se diviser en deux et produire deux fois la note. Et quand elle se trouve être la quinte, par exemple la quinte du do, ma corde de do va se diviser en trois et produire trois sols. Donc, il y a plein de choses qui résonnent, mais ça ne fait pas des accords. Moi, je fais partie des gens qui ont... je me suis mis à la musique traditionnelle dans les années 75... 76 au violon, d'accord. Et j'habitais dans un petit village, dans une petite ville à Bar-le-Duc, dans la Meuse, et on avait un magasin de musique. Et c'était le seul point de, entre guillemets, culturel de la ville. C'est là où arrivaient les disques, les vinyles, et il y avait des bacs de différents styles de musique traditionnelle. Et dans la musique traditionnelle, il y avait encore des bacs il y avait la Scandinavie, la Bulgarie, la musique de l'Est, quoi. Et dans la Scandinavie, un jour, j'ai sorti un vinyle de joueur de nickel harpa. Et ça m'a intrigué. Et donc, j'ai l'instrument m'a plu, acoustiquement, parce qu'on le voyait, il n'y avait pas d'image sur les vinyles. Et donc, Ensuite, il y a eu un concours de circonstances. Il y a eu, par exemple, Laurent Vercambre qui jouait dans Malicorne, puis dans le Quatuor, un Quatuor burlesque. Et lui, il jouait de la nickel harpa. Et ça, ça m'a confirmé. En plus, je connaissais pas Laurent, mais Laurent, je le connaissais de Malicorne, parce qu'au violon, j'ai appris plein de thèmes de lui, que lui jouait, quoi. C'était un peu une idole, quoi, à l'époque, quoi.
Et est-ce que c'est la représentation que j'ai, mais est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui a introduit la nickel harpa en France ?
Je pense qu'il a beaucoup... Oui, bien sûr. Je pense qu'il a beaucoup contribué. En tout cas, lui, c'était quelqu'un finalement de connu. Donc, ça a été médiatisé. Après, il y a eu d'autres gens. Je pense, par exemple, à Marcel Ladurel, Marcel Lasson, qui étaient des gens... Alors, Ladurel, lui, il était du côté de Gap. Lasson, il était en Dordogne. Et lui, ils sont un peu plus vieux que moi, et ils fabriquaient déjà des nickel harpa. Et ils faisaient... Par exemple, Marcel Lasson, je l'ai vu ici, quoi, à Saint-Chartier, donc on va dire en... Je dirais 78 ou en 79. Ouais. Oui, alors... Il y avait déjà, avant moi, il y avait déjà au moins deux fabricants qui essayaient d'exister, certainement, tu vois, en étant présents sur des festivals.
T'as appris à les fabriquer, parce qu'une fois que tu as aimé l'instrument, avant de fabriquer, tu es allé en Suède, tu es allé voir comment ils faisaient sur place.
Alors franchement, c'était compliqué. Moi, je parlais pas anglais, je parle toujours pas anglais ni suédois, et donc et à 18 ans, j'avais pas beaucoup d'argent, et monter en Suède, ça me paraissait compliqué. Puis aller où en Suède, parce que tu vois, il y avait des fabricants, hein, mais il fallait les connaître, puis parce que c'est compliqué, un instrument, surtout les instruments populaires qui renaissent un peu de leurs cendres comme ça. Il y a eu de tout, hein. Donc en fait, j'ai préféré me lancer, j'ai trouvé un plan et je m'en suis fabriqué un. Voilà, je me suis dit, si ça ne marche pas, on le dit à personne, et puis
si ça marche, on le dit aux gens.
Oui, voilà, si ça marche, ben, je vais voir. Donc, je m'en fais une. Ensuite, ça marchait pas trop mal. Je l'ai vendue pour acheter de l'outillage. J'en ai fait une deuxième que j'ai revendue encore. Pour acheter. Alors, je la revendais pas la semaine d'après. Hein. Je la jouais un petit peu, je la pratiquais. Et puis après, j'en ai fabriqué une troisième que j'ai gardée pendant... Celle-là, je l'ai gardée, je pense, 20 ans. C'était une espèce de gros machin, là. Et je l'ai toujours, que je loue. Ouais.
Je vais en fabriquer plus, c'est pour les autres.
Alors il y a effectivement un moment où, alors moi, comme formation pour vivre, j'avais fait une formation d'éducateur, donc j'ai travaillé 2 ans dans ce milieu. Après, j'ai été licencié d'une boîte, donc j'ai été travailler en forêt, absolument rien à voir, mais j'ai été bûcheron pendant 3 ans. J'ai récupéré plein de bois, hein, alors des petites sections, hein, parce que c'était du bois qui était destiné au chauffage. Mais déjà, on peut faire des trucs avec pas mal de trucs. Et puis, ce qui était assez étonnant, c'est que je récupérais Parce que dans la forêt, moi, je plantais des arbres. C'est que les rejets, je trouvais que ça avait une forme d'archer naturel comme ça. Donc j'ai commencé à garder tous les bouts, les belles pièces qui correspondaient, la taille, voilà. En me disant qu'un jour, j'en ferai des archers. Donc j'ai fait des archers pour Nickel Arpa avec des rejets de saules, de d'aunes. J'en avais récupéré un qui était pas mal, c'était du poirier. Et il y avait plein de petits nœuds. Mais c'était sympa les petits nœuds, c'était assez joli en fait, ça faisait. Moi, j'aurais pu aussi retravailler comme éducateur ou même aller travailler en forêt, hein, ça aurait été possible. Mais finalement, j'ai décidé de... Et là, je me suis dit, je vais créer ma structure. Je vais m'installer comme artisan. Parce que pendant toute cette période-là, je faisais de la lutherie en amateur, les soirs, les week-ends, les vacances. Et de la musique. Et je me suis dit, je vais tenter le coup, quoi. Conscient de ne pas vivre de lutherie d'emblée, j'ai joint une autre activité donc de tournage sur bois. Donc j'ai été faire une formation de 3 mois à Gap, enfin à Barcelonnette, dans les Alpes-de-Haute-Provence, où j'ai appris à tourner. J'ai mis 6 mois à préparer un atelier. Puis en juillet 85, je me suis installé comme tourneur et comme luthier. En fait, je venais déjà là en tant que luthier. Et je présentais des instruments comme des épinettes, des psaltérions, des rebecs. Et puis, j'ai une nickel harpa que je présentais, que j'avais fait. Et puis, de fil en... à chaque fois que je faisais un festival, je revenais avec une commande de quelque chose, d'épinettes, de psaltérions. Et puis un jour, j'ai eu une commande de nickel harpa, puis après une deuxième, puis une troisième. Il y a un moment, il y a un luthier qui faisait des épinettes et des psalterions à Gérardmer, qui s'appelait Louis Georgel, qui venait de prendre sa retraite et qui m'a proposé son atelier. Donc j'ai loué l'atelier de Louis Georgel, et là je me suis mis à faire des épinettes, mais alors en quantité industrielle, et des psalterions, et des petits rebecs, et des petites vielles à archer, voilà. Et je faisais en parallèle, je faisais des nickel harpa. Mais j'avais peut-être une commande par an seulement.
en ström. Han skröt av sinnes lugn och fred och sydde skor och söm. Visst gick han lort i veckan om en han belöning fick. Då ren och snygg då söndagen kom han till sin fästmö gick. Visst gick han lort i veckan om en han belöning fick. Då ren och snygg då söndagen kom han till sin fästmö gick. Som fan upp på en skorsten stod. Han ropte över hela stan och var vid glättigt mod. Men ack, hans glädje blev snart all. Han föll från taket ner och ropte högmod går för fall. Sen sjöng han aldrig mer. Men ack, hans glädje blev snart all. Han föll från taket.
Là, je commence déjà à avoir quelques commandes de Nickel Arpa. Et par contre, je m'aperçois, il y a le problème des archers. Je faisais des archers un peu avec mes branches là, que j'avais cueillies déjà. Ils ont eu le temps de sécher, mais bon, j'ai, voilà. Mais je me suis aperçu quand même que l'archer, c'était quelque chose d'important. Donc, j'ai fait une formation d'archetier à Mirecourt. Et là, du coup, je me suis mis à faire des archets, du quatuor, des nickel arpa et les archets de nickel arpa. J'ai fait un modèle d'archet qui a bien pris tout de suite, qui a bien marché tout de suite. Je pense que j'ai vendu plus d'archets que de nickel arpa. Et j'en ai envoyé un peu partout, en Suède, un peu partout dans le monde, en fait. Parce que des joueurs de nickel arpa, il y en a... Il y en a en Nouvelle-Zélande, il y en a aux États-Unis, il y en a vraiment partout.
Au Japon. Par contre, des luthiers de nickel arpa, il y en a en Suède et c'est tout.
Alors en Suède, ils sont, je dirais, peut-être 4 ou 5, ils ne sont pas énormes, il n'y en a pas tant que ça. Je vois Einar Magnusson, c'est un ancien mécanicien de chez Volvo. Donc quand il a été, enfin peut-être avant, mais en tout cas moi je l'ai connu, il était retraité, il faisait des nickel arpa. Puis à un moment, ça s'est mis à décoller, quoi. Vraiment, je me suis retrouvé avec des commandes. Donc là, je dirais en 95-96. Et en 98, j'ai embauché une personne, Annette Ozan. Et donc là, on s'est mis à faire essentiellement que des nickel arpa et des archets de nickel arpa. On n'en faisait pas non plus des tonnes, mais on en faisait quoi, peut-être une petite dizaine par an. C'est ça. Alors depuis, en tout, avec tout le monde, on a fabriqué depuis le temps, j'ai numéroté, on va avoir fabriqué 400 nickel arpa. Voilà.
Est-ce que c'est croissant la demande? Par exemple, cette année, est-ce que tu as beaucoup d'engouement pour ton...
Parce que tous ces gens-là jouent. Et beaucoup jouent en public, donc ça auto-alimente une demande. Et du coup, ben voilà, il y a d'autres fabricants maintenant. Ben, en France, il n'y a pas tant que ça. Il y a Annette, il y a un retraité, comment il s'appelle, en Alsace, Fuchs, Jackie Fuchs. Il y a Jos, il a arrêté, Jos Janssen. Il y a Annette, je l'ai déjà dit. Non, ben voilà, on est trois, quoi. Grand... Il y a eu des gens qui se sont installés, mais qui, je pense, ça n'a pas marché, ils ont arrêté.
Des gens qui s'intéressent au nickel arpa pour en jouer. Oui. Quel est un peu le profil des gens à qui tu vends des nickel arpa, qui viennent en chercher, et est-ce qu'il y a eu une évolution dans ce profil depuis que tu as commencé à en fabriquer ?
Alors moi, j'ai jamais voulu me limiter. Alors, je viens bien sûr dans les festivals trad, ça a vachement évolué. En fait, tout le monde s'intéresse à l'instrument. Quand je dis tout le monde, c'est des gens qui font du classique maintenant aussi, qui s'intéressent aux musiques traditionnelles. Voilà, je pense à un prof d'alto là, de Metz Vincent Roth, qui s'est intéressé à l'instrument. Il en joue super bien. Comme c'est un instrument assez facile d'accès au niveau du jeu, le clavier, on a des notes justes. Le fait qu'il y ait des cordes sympathiques, les notes vont sortir facilement. Donc, quelqu'un qui débute, il pourra très vite avoir des résultats.
Alors ça, c'est un peu contre-intuitif par rapport à l'esthétique de l'instrument. Quand on le voit avec toutes ces touches, tous ces trucs larchés et tout, on se dit ouais, « jamais j'essaierai, c'est trop compliqué ». Et toi, tu dis que en fait, c'est plutôt facile d'accès.
C'est facile. Moi, quand on débute des stages, il y a des gens qui essaient, dans un stage de découverte, par exemple, ils vont en deux jours, ils apprennent, ils ont compris comment ça fonctionne et ils vont être capables de jouer deux, trois mélodies simples. Non, franchement, je pense que c'est en ça qu'il a été populaire aussi, cet instrument en Suède. Un instrument traditionnel, populaire et cher, c'est un peu incohérent, quoi. Et pour en vivre, c'est quand même pas facile. Donc et puis aussi, il faut trouver des instruments accessibles pour les enfants. Hein, par exemple, ça n'existe pas. Ici, moi, j'ai fait un modèle pour enfants. Ouais, voilà, aussi.
Parce que c'est lourd, encombrant.
C'est lourd, voilà. Et puis, j'ai essayé d'être le moins cher possible. Donc en mécanisant tout ce qu'il était possible de mécaniser.
au final, est-ce que je peux dire que le mot de la fin, c'est le nickel arpa, c'est quand même beaucoup plus compliqué à fabriquer qu'à jouer?
Franchement, je pense, ouais. Oui, alors là, oui, ça, je suis d'accord avec toi.
Dans cet épisode de l'écho du parquet, vous avez pu écouter, et d'ailleurs qu'on écoute encore toujours, Vauden, avec un traditionnel crétois, Kanakistas ou Tragoudou. Et à part ça, qu'est-ce qu'on a entendu?
Alors, après Svart Café qu'on avait entendu en intro, vous avez pu entendre le duo Kavez-Polson avec une marche d'hiver.
Et puis Mirkour avec Svea.
Marguerite Lersto avec Apala Nikun Polska Efter Frank Jetala.
Le trio Larsson-Mer avec Sotaren.
Et Wesen avec Garage Schottis. Et vous pourrez trouver les références de tous ces morceaux sur notre audioblog. Et on vous dit à la prochaine.